Non a tutti e tutti, dunque parlerò in francese, però se c'è un problema col francese forse posso riassumere in italiano o qualcuno va a farlo. Je m'exprimerai, je vais effectivement sur la base, comme M. Doyen l'a dit, entre autres sur la base d'une expérience déjà ancienne d'une pratique de l'anatomie. Par moi-même, en tant que jeune médecin, dans les auditoires et dans les salles de dissection de l'Institut de pathologie en médecine légale et même dans les salles d'opération. Je ne me prévaux pas du tout de ce savoir-là. J'essaye au contraire de le mettre à distance et il me semble que la perspective de l'histoire que je vais apporter ici, c'est justement une perspective qui me permet de se mettre à distance de cette pratique. Et des évidences que nous croyons tout savoir, en particulier nous autres, les médecins. Donc, je vais commencer par un constat qui est très général et très évident, en tout cas apparemment évident. Dans la sphère culturelle occidentale, les patrons du corps, les maîtres du corps, ce sont les médecins. La structure et la fonction du corps, c'est pour les médecins. L'un et l'autre des objets, structure et corps, sont des objets, des disciplines qui sont complémentaires de l'anatomie et de la physiologie. Et tout au long de l'histoire, on peut dire qu'il y a eu une sorte de considération de ces deux disciplines comme de domaines qui, au fond, accaparent, je dirais, l'intérieur de la médecine et l'extérieur de la médecine. Par exemple, la résonance culturelle de la médecine est liée au fait, c'est mon avis, tout au long de l'histoire, depuis fort longtemps, et en particulier depuis la Renaissance, et aujourd'hui on est, hier on est précisément en train d'évaluer cette résonance extramédicale aussi. La médecine, l'anatomie et la physiologie, au fond, occupent la sphère culturelle de la médecine à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'en veux pour preuve le temps alloué pendant les études de médecine, en tout cas dans les premières années de médecine, depuis fort longtemps jusqu'à aujourd'hui, je préciserai ça tout à l'heure. L'espace institutionnel de la médecine, autrement dit, est occupé par ces deux disciplines, ces deux domaines, l'anatomie et la physiologie, qui ont donc une sorte de place d'honneur au sein de la médecine et dans la résonance de la médecine vers l'extérieur. Pour le dire autrement, du point de vue du médecin, l'anatomie est une science nécessaire. L'expression qui revient régulièrement dans des revues de médecine encore contemporaine, mais qui date de je ne sais où, je n'ai pas pu retrouver l'origine première, clavis et clavus medicinae, la clé et le gouvernail de la médecine. Et c'est ce que, avec d'autres historiens, je peux qualifier du terme d'anatomocentrisme médical. Autrement dit, c'est un fait épistémologique. L'anatomie humaine, l'anatomia, c'est un regard théorique autant qu'un geste technique qui n'est pas à comprendre comme un simple auxiliaire de la médecine, mais aussi une formulation latine pour ça, ancilla medicinae, la servante de la médecine, mais au contraire le guide de la médecine, donc l'anatomie comme le véritable fondement de la médecine. Il devient impossible de penser la médecine sans anatomie. Or, comme historien, qui m'étant occupé du passé, voire du passé fort lointain, je peux me dire, tiens, c'est curieux, puisque ayant un peu travaillé Hippocrate, par exemple, chez Hippocrate, dans le corpus hippocratique, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'anatomie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on en est venu à ce point de ne plus pouvoir dissocier l'anatomie de la médecine, alors qu'il fut un temps, fort lointain, certes, où il y avait une médecine sans anatomie? Donc, ce fait épistémique, voire épistémologique, se double d'un autre fait qui est un fait social. C'est ce qu'on peut appeler le iatrocentrisme anatomique, à savoir que l'anatomie, comme discipline, appartient principalement, sinon exclusivement, à la compétence des médecins, du fait de leur pratique, du fait qu'ils se réfèrent constamment aux données de la science anatomique. Ils ne peuvent envisager cette dernière que comme une branche appartenant à la médecine et ne peuvent pas imaginer la médecine, l'anatomie comme indépendante de la médecine. Il y a donc un fait épistémique, l'anatomocentrisme médical, et un fait social, le iatrocentrisme anatomique. Croisement, chiasme, si vous voulez. D'ailleurs, il me semble que l'une des dans les terrains principaux interrogés par cette...
Vous imaginez qu'on voit les slides, c'est vraiment de bon train.
Pour le moment, c'est bon. Je m'occupe des slides. Pour le moment, je suis contenté de cette slide énigmatique. À vous de... Je ne donnerai pas d'explication, c'est à vous d'essayer de voir si elle vous dit quelque chose. Il me semble que l'un des buts, l'un des objectifs de ces recherches que le groupe autour de Linda Bisello conduit, c'est précisément de remettre en question, d'historiciser, de réfléchir à cette donnée sociale, le iatrocentrisme anatomique, entre autres choses. L'histoire traditionnelle de la médecine, c'est-à-dire le récit continuiste qui se construit par des stratégies narratives et rhétoriques des grandes étapes, des révolutions, les tournants, les grands noms, les grands textes, les grandes époques, a, depuis fort longtemps, depuis que l'histoire de la médecine existe, c'est-à-dire depuis 150 ans à peu près, embrassé sans trop d'état d'âme ce point de vue que je viens de décrire, renforcé en cela par les acteurs eux-mêmes, souvent les médecins, en pleine conscience d'opérer, pas souvent, lorsqu'ils... Ils ont une forte conscience eux-mêmes, des révolutions en anatomie. L'exemple de Vézal est patent, mais on peut remonter plus loin, et Galien fournirait un très bel exemple lui aussi. J'y reviendrai. Voici le résumé de ce grand récit d'histoire de l'anatomie. Les cultures médicales occidentales placent l'accent sur l'étude de l'anatomie, connaissent un lent développement initial de l'anatomie à partir de données d'anatomie populaire dans la très vieille Grèce. Tout ceci, c'est donc un récit, ça n'est pas forcément mon opinion, c'est un récit. L'apogée de l'anatomie médicale, il y en a une première, à Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, et au Galien, ça devient un peu plus compliqué lorsqu'il faut placer les uns et l'autre, 6 ou 7 siècles plus tard. Puis, ces cultures médicales anatomiques déclinent, c'est le Moyen-Âge, et elles connaissent le nouvel essor, l'âge d'or, le deuxième âge d'or du XVIe au XVIIIe siècle, avec le grand nom Vézal, bien entendu. Et après différentes turbulences, un troisième essor avec, au fond, le XIXe siècle qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec différents avatars, où l'anatomie se lie enfin à la clinique avec la fameuse révolution anatomoclinique. Et donc, j'ai mobilisé dans ce récit les termes d'apogée, d'âge d'or, de déclin, de révolution et de tournant. La question qui se pose aujourd'hui, dans ce même récit, c'est l'anatomie est-elle en phase de déclin nouveau ou où en est l'anatomie aujourd'hui? Donc, en faisant cette histoire de l'anatomie, ou plutôt cette histoire de l'histoire de l'anatomie, c'est aussi une occasion pour moi de réfléchir à la place contemporaine de l'anatomie. Donc, un processus un peu autobiographique, puisque comme tout médecin, j'ai fait de l'anatomie. Et bien souvent, je me suis demandé, mais à quoi ça sert ce que je suis en train de faire en apprenant l'anatomie? Voilà pour le retour du global au très particulier de mon cas tout à fait individuel. Je vais donc m'efforcer de complexifier ce schéma et je vais procéder par une méthode plutôt généalogique en 4 points. Vous avez toutes et tous reconnu, je pense, quoi ? Poumon. Si on veut être précis, deux poumons, ou un, et la trachée. Hein. Donc, voilà, bravo Linda. Diagnostic, on a fait cet exercice comme étudiant en médecine, diagnostic d'organes. Un, en fait, ce qu'on a, c'est plutôt un ex-voto qu'un poumon. C'est l'ex-voto d'un poumon. C'est tout à fait contemporain, ça appartient à ma collection personnelle d'ex-voto anatomiques. « On distingue sur ce deuxième ex-voto qui appartient aussi à la collection quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est-à-dire, dans le premier, vous aviez le poumon et la trachée, ou les poumons pondus en un organe isolé. Ici, vous avez un complexe d'organes qui se détache sur le fond de l'espace ouvert par l'incision cutanée. Donc, on a un torse entier, un tronc, qui va du pubis jusqu'au haut du cou, qui est ouvert en son milieu comme on ouvre un rideau et on dévoile à l'intérieur un certain nombre d'organes dont vous reconnaissez peut-être tout en haut la thyroïde. On peut imaginer les deux poumons, le cœur, dessous un abat un peu plus, je vais le montrer ici, un peu plus bizarre, mais dans lequel on peut reconnaître le foie, un ensemble qui contient probablement aussi l'estomac, peut-être aussi un peu la rate, ou on ne sait pas très bien, enfin quelque chose qui, en tout cas dans les canons, dans la vision que peut avoir un médecin contemporain, est un peu plus flou. Et en dessous, la masse intestinale, l'intestin grêle, et ici le gros intestin. Donc une série d'organes qui, en fond, constituent l'intérieur du corps dans une vision qu'on va dire un peu populaire. Hein. Ces ex-votos sont achetables sur le net, ou bien si vous allez à Patmos, par exemple, ou dans n'importe quel lieu de pèlerinage, en Grèce, mais aussi en Italie, ou partout ailleurs dans le monde, vous les trouvez en général à l'entrée des lieux de pèlerinage. Et vous pouvez acheter ces ex-votos. Et puis, un dernier exemple, celui-ci est beaucoup plus ancien, et vous fait remonter à 6 ou 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est tiré d'une fouille dans le sud de la Toscane, des fouilles de la civilisation dite étrusque, où un certain nombre de ces ex-votos anatomiques ont été mis au jour depuis une centaine d'années et très bien étudiés par toute une série d'archéologues, où, avec peut-être un luxe de détail un peu moins grand, bien on reconnaît aussi vaguement quelque chose qui est en tout cas un intérieur de l'abdomen ici, peut-être un bout du torse aussi. C'est plus difficile de faire des diagnostics d'organes sur cette base, mais on fait assez aisément le parallèle avec la forme contemporaine. À part ça, on ne peut pas dire beaucoup plus, même en convoquant toutes ces connaissances anatomiques, voire archéologiques, sur ces signes, sinon que ce sont des signes d'une relation entre l'expérience terrestre d'une souffrance, probablement, qu'on imagine, et l'espoir d'une relation avec une divinité, une entité non visible ou une puissance extérieure, dans le but de guérir. Hein. C'est le principe de l'ex-voto. C'est un signe qui relie, au fond, une expérience douloureuse. J'ai eu mal partout, ou dans les poumons, ou dans le cœur. Vous avez aussi des jambes, des yeux, des oreilles. Vous avez tout le corps humain qui peut y passer. Et une instance qu'on va dire divine pour, de façon à se guérir. Voilà, autrement dit, des signes. Et nous autres humains, nous les interprétons comme une sorte d'évidence. Il y a une sorte d'évidence de ce corps qui est ainsi montré ici, qui est ainsi désigné. Nous assumons que ces organes sont évidents, que ces ex-votos représentent des organes qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent à tout le monde, qui parlent d'eux-mêmes, qui ont une sorte d'évidence naturelle, qui sont liés à toutes sortes d'opérations de notre corporalité, par exemple la respiration, la digestion, les mal de cœur, quels qu'ils soient, psychiques ou mondains. Et bref, on les imagine selon la nature du corps, nature entre guillemets. C'est des organes naturels d'un corps naturel. Difficile de penser que ces ex-votos soient inscrits dans une certaine histoire, d'autant plus que celui d'il y a 2000 ans ressemble furieusement à celui d'aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une non-histoire pour cette évidence, cette espèce d'anatomie naturelle, quasi populaire, qui se révèle ici. Voilà où je veux en venir. Alors, pour accompagner ces ex-votos, je vais vous résumer un texte qui est le premier traité d'anatomie et qui provient, contrairement à ce que j'ai dit à l'instant, du corpus hippocratique. Donc, dans le corpus hippocratique, il y a quand même de l'anatomie. Mais elle est présente de façon explicite en 2 pages seulement. Et ce traité, qu'on a raccroché assez tardivement au corpus hippocratique, s'appelle Peri Anatomes. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui le connaissent. C'est 2 petites pages qui, dans dans l'édition d'Émile Littré, que vous connaissez, qui est l'édition de référence, plusieurs milliers de pages, deux petites pages, il s'appelle Un traité d'anatomie. Faites le rapport avec aujourd'hui, les traités d'anatomie ont des milliers de pages et constituent un socle évident de la littérature médicale. Voici ce que dit ce traité Peri-anatomes. Ça veut dire donc de l'anatomie. Je le résume brièvement, il fait deux pages, mais je vais le lire un peu rapidement et en résumé. La trachée prend ses origines des deux côtés du larynx. Elle se termine au sommet du poumon. Vous vous souvenez du l'ex voto qu'on vient de voir. Elle est composée d'anneaux semblables à ceux des autres animaux. Le poumon lui-même, il y en a un, le poumon, au pneumon, pas les poumons au pluriel, incliné vers la gauche, remplit la cavité thoracique. Il possède cinq cavités parties saillantes qu'on appelle des lobes. Il est de couleur cendrée et naturellement alvéolé. Troisième organe, le cœur est au milieu du poumon. Il est plus rond que celui des autres animaux. Du cœur descend un large tuyau jusqu'au foie. Et avec ce tuyau, un vaisseau appelé une grande veine par laquelle le corps entier est nourri. Donc, un tuyau et une grande veine. Celles et ceux qui ont leur anatomie contemporaine en tête, essayez de faire le rapport. Le foie ressemble à celui de tous les autres animaux. Il a deux parties saillantes qu'on appelle les portes. Donc, deux lobes, aujourd'hui on dirait lobe, les deux parties, nérès en grec, qu'on appelle les portes. Il se trouve dans la partie droite du foie, une veine oblique part en direction des reins. Donc du foie, une veine oblique, fleps, qui va en direction des reins. Les reins sont semblables à ceux des autres animaux. Deux partent des conduits obliques vers le sommet de la vessie. Les fameux meati urinari qu'on a eu ce matin, hein, les urètes. Ça, c'est mon interprétation après les anatomistes de la fin du Moyen-Âge. La vessie est tout entière tendineuse et grande. À distance de la vessie, au centre, les testicules. Donc, de la trachée aux testicules, un parcours. Ces six parties ont été disposées à l'intérieur centralement. Donc, vous avez des parties. Vous voyez, vous souvenez de celui-ci est peut-être un peu plus explicite. Six parties au centre de la cavité. Derrière, vous avez l'œsophage qui prend naissance à la langue, se termine dans le ventre. De la colonne vertébrale vient le diaphragme, on l'aperçoit aussi ici. Sur le côté gauche du diaphragme commence la rate, qui s'étend de manière semblable à l'empreinte d'un pied. La rate comme un pied. Je ne sais pas très bien si ça correspond à ce qui se passe. Le ventre, autrement dit, dans notre terminologie contemporaine, l'estomac, mais le terme utilisé par l'auteur ou l'autrice, c'est ventre, estomac ou ventre sont indistincts. Le ventre est entièrement tendineux. Du ventre descend l'intestin, mesurant au moins 12 coudées, spiralées en repli, que certains appellent colonne, par où se produit le passage de la nourriture. Du colon vient le rectum à la chair fournie et se termine à l'extrémité de l'anus. Le reste a été disposé en ordre par la nature. Donc une deuxième couche, l'œsophage, l'estomac, la rate, les intestins, le côlon, l'anus. Deux tuyaux qui organisent le cœur. Ce traité anatomique, c'est le premier que nous avons conservé de la tradition médicale occidentale, nous frappe par ses effets de vérité. C'est vrai qu'après l'œsophage vient l'estomac, par des effets de flou, la description du foie est un peu floue, deux lobes, le poumon aussi, cinq lobes, bon, ça correspond à peu près, mais c'est plus flou, et des effets d'erreur. Et des erreurs. Qu'est-ce que c'est que ce conduit qui va du foie vers les reins? Alors, j'ai étudié ça plus longuement et je ne vais pas dérouler exactement ce qu'il en est, mais ce qui m'importe ici, c'est de réfléchir aux effets de vérité, aux effets d'erreur que nous pouvons avoir face à une telle description anatomique. Et surtout, quand l'avons-nous fait dans la tradition occidentale et quand ont fait les historiens de la médecine? Évidemment, la question qui s'est posée et qui continue de se poser dans les commentaires autour de ce petit traité, c'est: est-ce que l'auteur avait connaissance de l'anatomie humaine? Comment a-t-il pu acquérir ces connaissances? Là encore, ça mériterait une discussion beaucoup plus grande. Je vous laisse sur cette interrogation, mais je vous laisse pour le moment sur ce fait aussi que nous réfléchissons à cela d'emblée dans la logique qui est: comment est-ce que, enfin, d'une part, un effet d'éclaircissement, c'est assez extraordinaire d'imaginer cette qualité de descriptive, et en même temps, nous sommes un peu troublés par les effets de fausseté. Comment l'auteur a pu-il, lui qui a quand même bien observé que la trachée était faite d'anneaux, pourquoi nous parle-t-il d'un tuyau qui va du foie jusqu'au rein, alors que nous savons bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de tuyau qui va de foie jusqu'au rein, que ce soit un tendon, une veine, une artère, un tronc nerveux par exemple. Donc, ce traité anatomique nous contraint à réfléchir aujourd'hui dans notre tradition médicale occidentale aux moyens d'acquisition et à la question cruciale de savoir si ce traité s'applique bien à l'humain, ce qui semble être le cas. Il ne parle pas d'humain, mais il dit: le foie est semblable à celui de tous les autres animaux. Le fait qu'il compare aux autres animaux fait penser, et comme il se retrouve dans une collection médicale, fait penser que c'est une sorte d'abrégé d'anatomie à l'usage du médecin qui mettrait en quelque sorte dans sa poche comme un compagnon. Où se trouve le foie déjà? Je regarde et je vérifie qu'il est bien à droite, juste à côté du bras. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, un traité qui nous évoque et qui a évoqué dans l'histoire une interprétation humaine, et surtout avec une grosse interrogation sur les moyens d'acquérir ce type de connaissances, et donc de postuler l'existence d'une anatomie humaine un peu populaire avant celle donc qui sera l'objet de mon deuxième point maintenant, c'est celle de l'anatomie humaine. Et je vais vous parler ici très rapidement, cette histoire a été moult fois racontée, de ce qu'il en est des premières attestations à peu près stabilisées d'une dissection humaine, à savoir à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les grands noms, c'est Érasistrate et Rosine. Tout le monde connaît ça, et je ne vais pas en faire trop long. Alors, il y a une histoire de la construction au-delà du développement de cette technique qu'on appelle la dissection humaine, qui nous mène des présocratiques. Vous avez déjà Anaxagore, Alcméon, voire certains traités hippocratiques, dans lesquels vous avez l'émergence d'une logique, et c'est Mario Beggetti que tu avais cité hier, qui a bien étudié cette construction dans son ouvrage fondamental Le couteau et le stylet, il coltello et lo stilo. Au fond, l'émergence de gestes de rationalité, puisque pour Beggetti, la thèse fondamentale, c'est que l'anatomie, c'est l'émergence de la rationalité moderne, on pourrait presque dire. Selon notre historien, ce sont les balbutiements anatomiques, comme si c'était une langue qui existait, mais qu'il fallait apprendre en balbutiant, ou la logique fondamentale, c'est d'imaginer une structure à l'intérieur, par une sorte de sémiologie propre, et ensuite le geste consiste à couper pour vérifier si la structure à l'intérieur correspond bien à l'hypothèse qu'on en avait. Rationalité ou rationalité balbutiante, si l'on veut. Mené à son terme évidemment par Aristote, sauf qu'Aristote ne le fait pas sur des humains, en tout cas qu'on le sache, et Aristote organise systématiquement et de façon raisonnée et comparée une anatomie qui est extraordinaire, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et c'est à la faveur, sans doute, de facteurs sociaux, d'une permissivité dont on s'interroge encore sur les termes, les tenants et les aboutissants, à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où les princes autorisent, nous disent les témoins qui viennent 4 siècles après, donc c'est tout à fait du direct, nous disent qu'effectivement, Érasistrate et Hérophile pratiquent la dissection. Nous savons cela essentiellement par leur témoin ultérieur, qui est Galien. On sait qu'Hérophile et Érasistrate n'ont rien laissé, mais on sait beaucoup de choses sur eux, grâce en particulier à Galien, qui en parle abondamment dans ses écrits. Et comme vous savez tous que Galien parle abondamment, eh bien, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de littérature galénique tous azimuts. Ça fait le 1/10 de tout ce que nous avons conservé de la littérature grecque. Donc, en passant, c'est vraiment beaucoup, Galien. Et il parle, il nous renseigne énormément sur l'histoire de la médecine à Rome. Et que nous dit-il, par exemple, à propos d'Érasistrate? Galien est au 2e siècle, Érasistrate, 5 siècles avant. Érasistrate parle d'Érasistrate en train de disséquer les nerfs cérébraux. Aussi longtemps qu'il voyait la partie extérieure du nerf, celle qui s'avance à partir de la méninge, affirmait que tout nerf procédait de la méninge. Donc les nerfs proviennent de la méninge. Raisonnement rationaliste. Alors il dit, et Érasistrate dans de nombreux livres dit que les nerfs s'avancent à partir de la membrane entourant le cerveau, c'est-à-dire de la méninge. Mais avancé en âge, donc avec la sagesse, et ayant le temps de s'adonner aux seules choses théoriques de l'art, n'étant pas pressé par ces privilèges des professeurs honoraires d'ailleurs, eh bien, il put faire des dissections précises et découvrir que l'intérieur des nerfs provenait du cerveau. Donc une découverte tout de même fondamentale, surtout dans le contexte du débat théorique ancien entre encéphalocentrisme et cardiocentrisme, lié à cette méthode poussée à son acmé, à son apogée, représenté par Érasistrate, que les nerfs proviennent du cerveau et non pas des méninges. Comment dire, une dissection attentive conduit nécessairement à des découvertes anatomophysiologiques absolument cruciales pour la nature de l'homme. Voilà déjà un commentaire petit qui nous dit beaucoup de choses sur, au fond, cette avancée ou ce moment absolument crucial, ou en tout cas vécu comme tel par les témoins indirects, savoir que l'anatomie est cruciale pour la médecine. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut dire que l'anatomie, elle devient, dans Galien considérant ses ancêtres, comme non plus la simple servante de la médecine, mais comme le fondement de la médecine. Toute médecine normalement constituée à partir de cette époque-là, entre Alexandrie et Galien, sera anatomique, c'est l'anatomie, anatomocentrisme médical dont je parlais tout à l'heure. Pour les successeurs, je dirais, de Hérophile et Érasistrate lu par Galien, il est devenu, cet anatomocentrisme médical est si contraignant qu'il devient impossible d'imaginer une médecine qui ne soit pas faite d'anatomie. On ne peut plus pratiquer, imaginer la médecine sans anatomie. Et pourtant, celle d'Hippocrate, peu de temps avant, était une médecine sans anatomie. Galien, autrement dit, considère et établit, à l'aide de cette reconstruction historiographique, que l'anatomie est le fondement logique et chronologique de la médecine, à tel point que Galien, qui est en même temps un admirateur d'Hippocrate, et c'est toujours intéressant pour les spécialistes de Galien de voir comment il se débrouille avec des contradictions, il se confronte à la contradiction, comment se fait-il qu'Hippocrate n'a pas parlé d'anatomie? Puisqu'Hippocrate, c'est le plus grand des médecins, que l'anatomie, c'est au fondement de la médecine, comment se fait-il que le plus grand médecin ne s'occupe pas d'anatomie? C'est que, dit-il, du temps d'Hippocrate, au fond, on en était une sorte d'état paradisiaque où l'anatomie s'apprenait par oral, il n'y avait pas besoin de l'écrire. Et Hippocrate l'a appris de ses parents, l'a transmis à ses enfants par oral. C'était une anatomie orale, une anatomie sans texte. Ceci n'est pas sans intérêt peut-être pour la réflexion qui a lieu aujourd'hui là-dessus. Et Galien décline les utilités de l'anatomie que vous connaissez pour le chirurgien, le médecin, le philosophe, l'amoureux de la nature, bref, toute une série d'utilités de l'anatomie, non seulement pour la médecine, mais au-delà, et c'est là que l'anatomocentrisme médical diffuse au-delà même du cercle et du domaine de la médecine vers d'autres couches culturelles. On connaît aussi par un autre témoin de cette période glorieuse, supposée glorieuse d'Alexandrie, quelques apories de ce moment-là, et c'est Cels, médecin ou du moins encyclopédiste romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui dit, qui rapporte lui aussi les découvertes ou les avancées d'Alexandrie, et dit, mais il y a un problème, il y a eu un problème, puisque au fond, cette pratique d'Hérophile et d'Erasistrate a mené à des paradoxes, en tout cas à des controverses. Les médecins empiristes, comme ils les appellent, se tenant de la médecine pratique, trouvaient l'anatomie parfaitement inutile, puisque c'est seule l'expérience qui permet de savoir ce que c'est que la médecine. Et ceci s'oppose aux dogmatistes qui, eux, disent la médecine doit être fondée sur des raisonnements, sur la rationalité, sur la raison. Et eux tenaient pour l'importance cruciale de l'anatomie. Donc cette importance centrale de l'anatomie n'est pas d'emblée reconnue, en tout cas suscite, à travers les écrits d'un témoin ultérieur, Cels aussi, une certaine controverse, je dirais même, une aporie, puisque c'est quelque chose que, qui va s'établir très très longtemps, cette question de l'utilité réelle de l'anatomie pour la médecine. Et elle sera résolue pour les historiens de la médecine, dont je fais partie, probablement en partie seulement au XIXe siècle, avec la révolution, entre guillemets, anatomo-clinique. Le deuxième aporie, c'est la question du vivant. Est-ce que en disséquant, on a la connaissance du vivant. Le but de la dissection, c'est de connaître l'intérieur du corps humain, mais du corps humain vivant. Or, le corps humain mort, ou en tout cas rapidement mort une fois qu'on commence à le disséquer, je ne dis pas que j'en ai fait l'expérience, mais on accuse les médecins alexandrins d'avoir fait cette expérience. Certains accusent, les auteurs chrétiens ultérieurs accuseront Hérophile et Erasistrate d'avoir exécuté en dissection, la vivisection, autrement dit, de façon à pouvoir lever cette aporie, au fond, en connaissant le corps mort, on n'est pas sûr de connaître le corps vivant, donc ouvrons le vivant. Deuxième aporie, je m'attarderai non pas sur ces deux apories qui ont été bien étudiées, mais sur une troisième, et c'est mon point 3, le corps et les tempéraments. Là encore, Galien nous sert de guide. L'anatomie établie en quelque sorte comme fondement de la médecine, Galien nous permet d'y réfléchir en décrivant dans un autre de ses multiples écrits l'ordre dans lequel il faut lire ses livres. Il dit, pour commencer à étudier la médecine, il faut commencer à lire. Il y a deux grands blocs de textes, deux styles globaux, deux contenus globaux, et moi, Galien, ai écrit surtout, donc je conseille aux étudiants de lire deux grands blocs. Commencez par le premier grand bloc. Vous avez, dans le premier grand bloc, les traités anatomiques, les procedimenti anatomici, les procédures anatomiques, et les œuvres de physiologie anatomique, comme Deus Partium, l'usage des parties aussi. Deux immenses traités, à vrai dire immenses par leur taille, en tout cas autant que par leur contenu. Le deuxième bloc est considéré, est constitué, et l'étudiant devra aborder successivement ces deux blocs, le bloc de l'anatomie et de la physiologie, et un deuxième bloc, plus problématique, où il s'agira d'étudier les traités qui parlent des éléments, des stoikeia. Alors il y a un traité de Galien qui est beaucoup plus petit, il fait une centaine de pages, des éléments d'après Hippocrate, et une série d'autres traités, dont ces traités, ici, représentés, les traités sur les tempéraments ou la composition des corps. Galien, autrement dit, introduit dans cette image monolithique d'une médecine fondée sur l'anatomie, une sorte de schisme, un chiasme, plus exactement un schisme qu'un chiasme, puisqu'il y a d'un côté les traités sur l'anatomie, où vous apprendrez tout sur la structure et la fonction du corps, et le deuxième groupe de traités sur les éléments constitutifs du corps. Les traités que j'appellerai de façon anachronique, les traités anatomiques d'un côté et les traités biochimiques de l'autre. Et ceci est une différence cruciale pour Galien. Là encore, Vegetti a bien étudié cette différenciation entre l'un et l'autre groupe qui sont fondés. Méthodes d'apprentissage de la médecine très différentes. Et il passe beaucoup de temps à essayer d'articuler ce qui est en réalité difficilement articulable. Avec le premier groupe de traités sur les procédures anatomiques et sur l'usage des parties, vous avez le déploiement de la splendeur anatomique, avec aussi cette vision un peu finaliste. Rien n'a été fait en vain, le corps humain est parfait, chacune de ses parties a son utilité. Et sur plusieurs centaines, voire milliers de pages, vous avez une sorte de prose extrêmement lyrique qu'on retrouve parfaitement développé chez Galien, que peu d'entre nous ont lu en entier, parce que c'est vraiment long et un peu fastidieux, mais qui est évidemment une source d'inspiration énorme pour une tradition médicale qui suivra, en particulier au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le corps comme machine parfaite. Et l'anatomophysiologiste, le médecin, au fond, ça deviendra quelqu'un qui sera capable de documenter scientifiquement la providence, le créateur, et dans un contexte chrétien, évidemment, l'utilité finale et la toute-puissance divine. Succès triomphal. Mais, j'emprunte les termes à Vegetti, un prix élevé à payer pour ce succès triomphal philosophique. L'anatomophysiologie, ce corps parfait, ne peut rien sur le corps imparfait que nous avons tous. Ton corps, mon corps, ton corps, chacun est différent. Que comment rendre compte des différences individuelles et surtout des écroulements de cette perfection dans la maladie? Donc c'est là qu'il faut passer au second groupe de lecture prescrite par Gagnin, qui nous propose un deuxième corps, tout simplement. Un corps à travers, qu'il faut réfléchir, sur lequel réfléchir, non pas à partir de sa perfection, mais à partir de ses éléments premiers, avec tous les débats qu'on peut avoir sur le niveau, quel est l'élément premier. Et pour Galien, il a recours à cela, et c'est ce qui est c'est tout l'intérêt de ces traités, à des très anciennes théories qui, elles, ne sont plus du tout du même niveau épistémologique que les premières œuvres qui, elles, se fondaient sur la découverte, souvenez-vous des Rasistrates, découvrant l'origine du nerf en découpant. Ici, il faut se fonder sur une théorie qui remonte à Hippocrate et de ses clavins, avant qu'il y ait la théorie des tempéraments, tout simplement. Les quatre éléments qui sont représentés, qui seront mille fois représentés ici dans cette gravure colorée de la fin du Moyen-Âge qui sert de couverture à cet ouvrage. Autrement dit, en réfléchissant sur la façon dont Galien présente cette œuvre, et derrière Galien, il faut toute une médecine, un système de la médecine, vous avez une image du corps parfait sur la base anatomophysiologique, et puis le corps comme mixture d'éléments, un tempérament littéralement, les qualités basées sur les qualités matérielles et les humeurs, et ces deux conceptions différentes du corps induisent donc une sorte de bifurcation, d'un côté les organes et leurs fonctions, l'anatomie, de l'autre, la crassis des éléments, la biochimie. La première direction conduit vers un savoir prestigieux et de tradition illustre. La seconde a plutôt à faire avec les mélanges. Et au fond, si on prend l'image d'un artisan, le premier c'est l'artisan parfait, le charpentier qui construit une charpente parfaite. Et le deuxième c'est le pharmacien ou le chimiste qui fait ces mélanges qui marchent plus ou moins et qui sont plus ou moins réussis. Donc, de façon complètement différente d'imaginer une sorte d'activité médicale, si on veut. Et j'insiste là-dessus sur l'espèce d'oscillation que des chercheurs spécialistes et chercheuses spécialistes de Gagnin sur lesquels travaillent, notamment aujourd'hui avec tout ce continent encore de Gagnin à découvrir que sont les œuvres pharmacologiques. Ce serait plutôt de se contenter. Je vous laisse avec cette interrogation. Inutile de vous dire que dans ma conception des choses, cette espèce de bifurcation est quelque chose qui se prolonge et qu'il y a des échos jusque dans la structure même des études médicales contemporaines. Je fais juste appel à un souvenir biographique puisque je me suis permis de le faire pour le début. C'est qu'en ayant en première et deuxième année de médecine dans la structure qui prévalait dans les années 70 et 80, moi j'ai fait mes études à l'Université de Genève, à la fin de la deuxième année de médecine, j'ai eu l'impression d'avoir dans mes mains le savoir parfait. Je savais toute l'anatomie, toute la physiologie, toute l'histologie, toute la cytologie, et l'impression, mais je sais tout du corps. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction d'arriver dans le premier cours de la troisième année, où on a commencé à nous parler de pathologie, où là, tout ce savoir parfait se dissolvait, pour ainsi dire, puisque à ce cœur parfait que j'avais appris, eh bien, je voyais qu'au fond, il ne marchait jamais parfaitement, qu'il y avait plein de défauts possibles et que cette structure parfaite, au fond, dans la réalité qui était celle que j'allais rencontrer comme médecin, eh bien, c'était plus tout de même. Donc, petite crise existentielle personnelle, pas très grave, je m'en suis sorti. Je pense que la médecine, au fond, fondamentalement, aussi, entre ces deux, il n'a pas toujours explicité réellement cette espèce de conflit qui la travaille encore aujourd'hui. Je termine, enfin j'arrive au dernier corps dont je voulais parler, c'est celui de Vesa. Je vais aller assez rapidement là-dessus. J'aimerais parler maintenant de Vesal et des siècles d'or de l'anatomie. Nous avons tous été, moi-même comme étudiant en médecine, bercés par cette histoire des grands-oncles qui, au fond, continue d'une certaine façon cette histoire glorieuse du corps anatomophysiologique parfait. Et on a entendu tout à l'heure le nom de Scarpa. La plupart des anatomistes italiens du XVIe et du XVIIe siècle, surtout italiens d'ailleurs, peu, quelques Français, ont laissé des noms quelque part dans le corps. Ce qui fait que mon corps est plein de aqua pendente, de scarpa, de morgagni aussi, etc., etc. De nom italien, il y a quelques noms français. Il y a aussi hérophile qui est quelque part dans mon cerveau, le torcula hérophili dans mon cerveau. C'est au fond notre corps, et c'est ce que j'aimerais faire ressortir par cette histoire que nous avons, l'histoire que nous nous faisons de cette découverte du corps et qui culmine dans cette deuxième apogée qui est Vesale et les siècles d'or de l'anatomie. Or, dans ce contexte, la plupart des historiens et des historiennes de l'anatomie et du corps se posent la question pourquoi et comment se fait-il qu'on a à certains moments autopsié et pas autopsié. La résurgence de ce siècle d'or de l'anatomie autour de Vesale est expliquée de façon très grossière, et on retrouve encore constamment aujourd'hui cette interprétation. C'est parce que, de nouveau, on pouvait explorer les corps humains. On pouvait disséquer les corps humains. Je vous ai oublié de vous commenter cette image, hein, qui est la première image connue en Occident d'une dissection d'un corps humain. Comment se fait-il qu'à un moment où, justement, on suppose qu'il n'y avait pas de dissection humaine, et par lequel on explique de façon très mécaniste et tout à fait insuffisante, à mon avis, le fait que le Moyen-Âge était une période de non-progrès anatomique, de stagnation, voire de déclin, et que, avec Aristote, eh bien, le fait d'avoir de nouveau accès à des corps humains permet d'arriver à cette perfection. Alors, j'aimerais opposer, au fond, la suite de cette histoire va de même. Je prends quelques exemples, y compris par des historiens de la médecine tout à fait intéressants, je ne citerai pas de nom, qui effectivement reproduisent ce schéma. Ils disent voilà, il y a eu effectivement à la Renaissance essor à nouveau de l'anatomie et un nouvel essor, sans qu'on sache très bien ce qui se passe entre ces deux essors, au XIXe siècle, avec le fait que l'anatomie enfin rejoigne la médecine et la clinique. Parce qu'il y a bien quelque chose qui heurte dans cette vision, mais au fond, tout ça, Vesale, qu'est-ce qu'il a apporté à la médecine, aux soins des gens, et c'est la question sur laquelle se butent tous les historiens de la médecine et historiennes, mais au fond, c'est bien beau tout ça, mais les gens, ils mourraient tout autant après et avant la fabrica. Hein. Je résume un petit peu grossièrement ce qu'il en est. Et la solution vient en quelque sorte avec des historiens de la médecine, dont Michel Foucault, dont on parlait hier soir, qui effectivement, lui, reproduit aussi un peu ce cliché du 19e siècle, en disant, ben, c'est la soi-disant révolution anatomo-clinique du XIXe siècle, où la clinique rencontre l'anatomie, et c'est ce qui s'appelle l'anatomo-clinique. Voilà, il suffit de mettre les deux mots ensemble, la révolution est faite. Et je cite juste Michel Foucault pour introduire un peu de pensée critique contre ce penseur, qui mérite toutefois qu'on y s'arrête, parce qu'il est, il demeure malgré tout très intéressant, on en parlait hier soir avec Diane. Il restera sans doute décisif pour notre culture que le premier discours scientifique tenu par elle sur l'individu et dû passer par ce moment de la mort. Donc Foucault refait l'opération qu'on a pu faire sur l'Antiquité en accordant le terme scientifique sur l'étude du corps et du cadavre pathologique cette fois-ci. Intéressant aussi comme fusion, voire comme confusion. Et à ça, un historien que j'estime beaucoup, qui est notre ami Shigei Shakuriyama, des Specimens of the Body, il y a déjà plus de 20 ans, au fond, il a retourné la question. Il a dit, plutôt que de se poser la question pourquoi et comment est-ce qu'on a pu avoir accès au cadavre humain et ensuite faire des progrès, lui-même pose la question inverse. Comment se fait-il que certains ont eu l'idée d'ouvrir le corps humain pour faire avancer la médecine, alors qu'il y avait une série d'autres façons de connaître le corps humain? Donc au fond, ce qui devait être la finalité ouvrir le corps humain pour décrire ce qu'est l'intérieur devient une des modalités possibles. Ça remet cet acte tout à fait à une tâche, je dirais pas secondaire, mais en tout cas parallèle à d'autres façons possibles. Et je vous recommande, si vous n'avez pas lu, de lire son livre. Et ici, l'image qu'il met sur la couverture, j'ai repris les gravures qui sont évidemment celles que vous avez connues de Vézal et d'un traité chinois du XIIIe siècle, mais une gravure qui a été réimprimée au XIXe siècle en Chine, pour montrer qu'effectivement, il y a des façons de connaître l'intérieur du corps humain, qu'elle soit scientifique ou non, elle n'est pas ici mon problème, de dire l'une est plus juste que l'autre, ce n'est pas mon problème, je veux dire qu'il existe des façons différentes et qu'effectivement, la bonne façon, là, je vais prendre une bonne façon de faire l'histoire, c'est de poser la question retournée, comment se fait-il, non pas que des gens n'aient pas eu l'idée d'ouvrir le corps humain, mais l'inverse, comment se fait-il que certains, à un moment donné, aient eu l'idée d'ouvrir le corps humain? Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Et vous lirez son livre pour comprendre que l'histoire est très compliquée à partir de ce moment-là. J'arrive à ma conclusion. Je me suis proposé d'interroger ici, c'est moins l'évolution de l'anatomie elle-même que les reflets que nous autres historiens de la médecine avons projetés sur elle, en configurant l'histoire des pratiques anatomiques du corps et en réfléchissant aux reflets que ces pratiques du corps tendent à nous autres, à notre regard de contemporain. Autrement dit, j'ai tenté de pratiquer une histoire ou plus précisément une généalogie de l'anatomiocentrisme et des multiples paradoxes qu'il implique et que nous sommes loin encore d'avoir tous résolus. Et j'aimerais offrir aux organisatrices de ce congrès ce petit trésor, enfin je trouve que c'est un petit trésor, c'est un papyrus qui est conservé à la bibliothèque de l'Université de Genève, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, où vous voyez ce corps, c'est un papyrus magique de la série des papyrus magiques, en grec, vous avez un corps sur lequel il y a toute une série de lettres qui sont inscrites sur les membres inférieurs, les membres supérieurs, le thorax, et également sur le cou, et un petit texte en grec que dit ceci, il faudra prendre ce bout de tissu, le mettre sur le corps de la personne qui a été trouvée morte pour la sauver des malédictions qui l'attendent dans l'au-delà. Donc un papyrus typiquement magique, avec des formules inscrites sur lui, dont personne à ce jour n'imagine comment elles ont été prononcées, ce qu'elles veulent dire. Vous avez les séries de A, E, I, I, L, L, O, etc. Sur les bras de chaque côté et sur les membres du corps. C'est donc un corps qui est inscrit, qui est plein de textes, et je le laisse à votre appréciation en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup.